Arnould Galopin, Mémoire d'un cambrioleur retiré des affaires. Première partie, où le lecteur peut être assuré que ce qu'il va lire n'a pas été imaginé à plaisir. Croyez-vous au merveilleux ? On a déjà tant dit, écrit, argumenté sur la question qu'il semble que le sujet soit épuisé. Et pourtant, non. Épuiser un sujet, c'est le connaître à fond, et qui peut se flatter d'avoir approfondi l'inconnu. Pour moi, je crois au merveilleux. Qu'on l'appelle comme on voudra, il n'y a point d'effet sans cause. Or, j'ai vu l'effet, qu'importe si la cause doit être provisoirement classée sous ce vocabulaire imprécis. Je demande donc à ceux qui sont de mon avis de me suivre non pas dans le dédale obscur de raisonnements abstraits, mais tout simplement dans les galeries du musée du Louvre. D'ailleurs, je n'y force personne. Donc, nous voici dans la longue enfilade des salles. Je tiens à vous prévenir qu'il y fait aussi noir que dans la cervelle du plus fumeux des philosophes. Jusque-là, rien d'étrange. C'est la nuit, voilà tout. Les échos soulevés par les pas sur le parquet se prolongent à l'infini. Pour m'en tenir à ma comparaison avec ce qui touche au domaine de la pensée, je dirais que ces échos ressemblent au martèlement d'une idée obsédante comme on en a dans les états de demi-rêve. Les hautes fenêtres reçoivent de l'extérieur la lumière blafarde des fosses des candélabres électriques. Ça et là percent des lueurs. Ce sont, aperçus dans un rayon oblique, les dorures du lambris. Le jour, c'est à peine si on les remarque, tant est grande leur profusion. Mais la nuit, ces rares éclats incertains ont quelque chose d'inquiétant, comme des yeux qui veillent dans l'ombre. Ailleurs, c'est le mystère, le silence, rien. La nuit où je notais ces impressions était celle de Noël. Les cloches de Saint-Germain-l'Auxerrois annonçaient la messe de minuit et leur son pénétrait, assourdi, dans les galeries sombres, aussi atone que la clarté lointaine des réverbères. Deux gardiens, poursuivant leur ronde nocturne, venaient de s'engager dans la salle des antiquités égyptiennes. L'un portait une lanterne sourde. Précisons, il importe de ne rien laisser dans le vague que ce qui demeure inexplicable. Le premier s'appelait Bartissol et était du Midi. Il seyait au second, qui était bas-breton, de se nommer Logarec. « Entends, dit Bartissol, voilà la messe qui sonne. Il y en a qui vont réveillonner et bambocher toute la nuit. Qu'est-ce que ça te dit à toi, vieux ?»« À moi, rien, fit Logarec rêveur. « Eh bien, moi, ça me dit qu'on n'est pas de cela, de ceux qui font la fête. »« Ah, bien sûr. Tiens, voilà notre réveillon à nous. » Le méridional, d'un geste rageur, déposa lourdement sa lanterne sur le sarcophage de la reine Tia. Ils s'arrêtèrent et s'adossèrent à la clôture placée devant les collections. Le breton renversa son bicorne sur sa nuque, croisa les bras et se mit à suivre en face de lui les jeux de la lumière bleuâtre sur les glaces de la fenêtre. Là-bas, loin, sur la place, à l'origine de cette lumière, il suffit du passage d'une phalène d'un insecte gros comme un rien pour qu'ici, sur les vitres, ce soit un fantasmagonerie énorme aux larges ailes de vampire. On supposera peut-être que je prépare mon atmosphère. Non pas. Que les sceptiques tentent l'expérience. Je crois plutôt, en certaines circonstances, à la collaboration secrète de phénomènes bizarres, mus par un agent insaisissable et provoquant l'événement qu'aucune des lois établies ne saurait expliquer. C'est précisément en cela que consiste le merveilleux. Je ne dis rien d'autre que ce qui fut. Un gardien du Louvre, qui se trouvait être breton, regardait se jouer la lumière électrique sur les glaces d'une fenêtre de la salle des sarcophages. Et le gardien disait « Sais-tu, Bartissol, à quoi je songe ? Aux nuits de Noël de chez nous. Elles étaient bleues comme celles-ci, à cause de clair de lune sur la neige, mais il y avait plus de neige dans ce temps-là qu'aujourd'hui. Ou bien c'est le pays qui n'est pas le même. On allait en bande à la messe de minuit, et puis on revenait, gelé, transi, et bien content de trouver une bonne bûche qui pétillait dans l'âtre. Alors on réveillonnait avec des crêpes, du boudin, et les anciens racontaient des histoires. Ah oui, fit Bartissol, les viandes ont toujours de bonnes. La plupart du temps, reprit le Breton, c'était des contes qui font peur. Alors nous, les gosses, on dormait à moitié, mais on se réveillait toujours dès qu'on parlait du Corrigan. Hé, railla Bartissol, qu'est-ce que c'est que ça, le Corrigan? Bon, c'est comme qui dirait une sorte de loup-garou. En as-tu vu? Moi, non, mais il y a des gens qui en ont vu. Et à quoi cela ressemble-t-il? À une bête? Non, ce serait plutôt un homme. Certains croient que c'est un damné, un mort qui revient, comprends-tu? Eh bien, vous êtes gay là-bas, en Bretagne. Chez nous, à Pézenas, se réveillent aussi, mais on chante et on boit, beau Dieu. Et les garçons dansent avec les filles. Ça, c'est s'amuser, quoi. Enfin bref, quelle figure a-t-il, ton Corrigan? Bon, cela dépend. Quelquefois, on ne voit que deux yeux. Hein? Deux yeux sans corps? Il paraît, oui, deux yeux qui brillent dans la nuit et qui se mettent à vous poursuivre. D'autres fois, cela vous saisit brusquement par derrière, vous renverse, et il y a des malheureux que l'on a trouvé mort, la figure déchirée, le ventre ouvert. L'homme du midi tortilla sa longue moustache d'un geste vainqueur d'ancien dragon et se mit à rire doucement. Il n'était pas de ceux qui croient au Corrigan ni au conte de bonne femme. Le petit Logarec, ancien quartier maître de la flotte, se réservait et n'en pensait pas moins. Cependant, les deux gardiens tombèrent d'accord sur ce point qu'il était abusif, à l'heure où tous les vivants s'amusent, de condamner deux fonctionnaires à garder trois ou quatre personnages défunts depuis des siècles. Que l'on veille sur les diamants, dit Bartissol, je comprends. Sur les tableaux, passe encore. Mais supposez que quelqu'un aura jamais l'idée d'enlever une vieille dame comme cette reine-là. Des fois, répliqua Logarec. Et que veux-tu qu'on en fasse? Ben, toi ou moi, rien, pardi, mais un savant, un collectionneur. Ces gens-là n'ont pas des idées comme tout le monde. Avoue que c'est drôle, tout de même, ces antiquités. Moi, je trouve que ça vous a quelque chose d'impressionnant. Et tout en parlant, Logarec, rêveur, contemplait la glace qui recouvrait le sarcophage dans lequel était enfermée la pauvre reine Tia. La tête et le haut du buste de la momie étaient dégagés des bandelettes, ainsi que ses mains ramenées sous le menton. Ce masque de mort sévère, de couleur sombre, aux traits profondément accentués, paraissait de bronze. On l'eût pu prendre pour une figure sculptée en relief, n'eût été une sorte d'humidité persistante entre les deux bords des paupières. Le gros œil de cyclope de la lanterne sourde, posé sur la glace, éclairait le visage en dessous et rebroussait de bas en haut toutes les ombres. Attiré malgré lui, Bartissol regardait aussi. « Non, vois-tu, fit Logarec. Tu diras ce que tu voudras, mais ces morts-là ne sont pas comme les autres. Te figures-tu bien ce que nous serons, toi et moi, 5 ans seulement après qu'on nous a enterrés? Donc voilà des idées. Non, mais t'es pas un petit peu marteau, mon pauvre Logarec? » Bartissol avait la voix puissante et, dans le grand vide des hautes salles, Les échos de cette voix répercutée par les caissons résonnaient étrangement. Il s'en aperçut sans doute, car il continua en baissant le ton. « Satané rigou, ça va. Il finirait par vous donner la tremblotte. » Puis, haussant les épaules, « Ces Bretons, oh, tous ces superstitieux, comme des vieilles femmes. » Et pour se donner une contenance, le méridional, plus impressionné qu'il ne voulait le paraître, repoussa de dépit la lanterne qui glissa sur la glace du sarcophage. Les ombres se déplacèrent violemment, bouleversant les traits de la momie, et subitement le visage de la reine Tia changea d'expression. Martissol tourna le dos. Quant à Logarec, il coulait un regard furtif vers ce masque mystérieux qui l'attirait étrangement. Tout à coup, il tressaillit. « Qu'as-tu donc ?» demanda Martissol en faisant lui-même un mouvement involontaire. « Moi, rien, » répondit Logarec. Le méridional fit claquer ses doigts. « Mais c'est toutes tes histoires aussi. Secouons-nous, bon Dieu. Tiens, entends-tu comme on chante dans la rue ? À Pézenas, on est gai comme cela. Pas de fête sans chanson. Criez à pleine gorge, voilà qui vous chasse les idées noires. Mais on n'en a pas chez nous. Aussi, on chante toujours. Je me rappelle l'année où j'ai tiré au sort. » Brusquement, Martissol se sentit saisir par le bras. Logarec fixait sur lui deux yeux agrandis par la peur. « Tu as entendu ? » souffla-t-il. « Quoi, les réveillonneurs qui chantent ? Non, là, je ne sais pas. Quelque chose a craqué. Bah, c'est une lame du parquet. Je ne crois pas. C'était comme qui dirait dans l'air. Tu ne vas pas croire que c'est le Corrigan, je suppose. Ne ris pas, Martissol, je te dis que quelque chose a craqué. Eh oui, c'est le parquet, parbleu. Non, cela sonnait le creux. Le creux, le creux, mais tu ferais devenir les gens fous, ma parole. Tu sais pourtant bien que le parquet est mauvais, qu'il y a un tas de lames qui fléchissent, même qu'on a déjà fait 36 enquêtes pour le réparer, mais avec l'administration. Tu crois ? Interrogea Logarec anxieux. Mais quand je te le dis, tiens, prends la lanterne, tu vas voir. Je vais te montrer l'endroit où... Martissol n'acheva pas. Un craquement bien distinct cette fois, sonore, indéniable, venait de se faire entendre, et comme l'avait dit le Breton, il paraissait s'être produit en l'air, à hauteur d'homme. « Hein ?» balbutia Logarec. « Tu vois bien que ce n'est pas le parquet ?»« Ça vient des portes, alors, » jeta Martissol en se hâtant vers la sortie. Logarec, tenant en main la lanterne sourde, rejoignit son compagnon. Ils examinèrent successivement les deux portes de dégagement placées vis-à-vis l'une de l'autre. Elles étaient d'ailleurs fermées. « Ça a pu craquer tout de même, » hasarda Martissol. « Ici, peut-être ?» Et Logarec désignait la grande vitrine qui fait face aux fenêtres. Ils s'approchèrent. Le rayon projeté par la lanterne sourde fit scintiller les dorures d'un autre sarcophage vide, celui-là, et placé debout à gauche de la baie. À l'instant même où la projection mettait en lumière l'effigie du personnage égyptien qui avait été enseveli dans cette haute boîte, un nouveau craquement retentit. Mais celui-là sonnait le creux. Il provenait sûrement du sarcophage. Les deux gardiens s'arrêtèrent et d'un même mouvement se montrèrent le couvercle sommet d'une face grimaçante et surchargée de lamelles d'or. Le sourire figé du pharaon semblait river sur eux. Puis ce sourire s'effaça, Les yeux d'Emma brillèrent et parurent glisser comme des yeux vivants qui suivent la fuite d'une image. Mais c'était maintenant un grincement continu. La figure virait à gauche d'une seule pièce. Et les gardiens n'avaient conscience qu'une chose, c'est que le sarcophage allait s'ouvrir. De son mouvement lent et régulier, le couvercle continuait de tourner. Bon, cela ne dut pas en réalité durer plus de quelques secondes, mais dans l'état de surexcitation où se trouvaient les deux témoins de cet effarant spectacle, ces secondes-là valaient une éternité. J'ai déjà expliqué que le sarcophage était placé debout sur le côté gauche de la porte vitrée qui fait communiquer les deux salles. D'ailleurs, tous les visiteurs du Louvre qui ont traversé ces galeries avant leur réinstallation se rappellent certainement cette gaine oblongue habillée de haut en bas de signes polychromes et terminée par une effigie du roi mort qui vous regarde de façon inquiétante. Pour peu qu'il veuille prendre à cette heure nocturne la place de mes deux gardiens, ils conviendront sans peine du tragique de la situation. Logarec n'avait pas lâché la lanterne, et le tremblement qui agitait son bras faisait courir sur le mur au-dessus du sarcophage, à sa droite, à sa gauche, des ombres fantastiques. Un heurt sourd! Le couvercle venait de se rabattre sur le chambranle de la porte vitrée. Les deux gardiens comprirent, plutôt qu'ils ne le virent, que la cavité de la bière béait devant eux. La lumière dans les mains de Logarec dansait de façon désordonnée, et à cette lueur incertaine et mouvante, il distinguait dans la boîte funèbre une vague forme humaine, toute droite et qui bougeait. Un bras noir se dressa soudain, et aussitôt une silhouette démesurée se profila sur la muraille. Alors ils n'y tinrent plus. Le Breton laissa choir sa lanterne, et tous deux prirent la fuite avec le sentiment très net que le Ramsès aux grands bras tendus les poursuivait. Dans sa chute, la lumière s'était éteinte. En revanche, la clarté de la lune entrait maintenant à flots par les fenêtres et étendait de distance en distance de grands rectangles blancs régulièrement coupés de croisillons noirs. Et tandis que se multipliaient, se heurtaient au profond des ténèbres, les échos soulevés par les pas précipités des fugitifs, dans le pâle rayon lunaire, un homme avançait sans bruit. Chapitre 2. L'alerte. Logarec et Bartissol traversèrent en courant la salle où grimacent dans les vitrines les innombrables divinités égyptiennes. La salle des colonnes, la salle des bijoux anciens. Ils franchirent la rotonde d'Apollon et se jetèrent comme des fous dans l'escalier que domine la Victoire de Samothrace. Là, Logarec osa se retourner. Rien. Rien que les immenses ailes éployées de la colossale déesse décapitée. Bartissol se devait de paraître audacieux jusqu'au bout. Il faut prévenir le chef, dit-il résolument. Ben vas-y, toi, fit Logarec. Non, non, suis-moi, il nous croira mieux si nous sommes deux. Logarec se rendit d'autant plus volontiers à cette excellente raison que ce vaste escalier sonore et vide le glaçait d'épouvante. Ils montèrent. Quelques minutes après, trois hommes arrivaient devant la Victoire de Samothrace, puis grimpaient les marches qui précèdent la rotonde d'Apollon. C'est là, chef, indiqua Logarec, en tendant une main qui tremblait dans la direction des salles obscures. Ils allaient poser le pied sur le seuil de la première galerie, lorsqu'un autre veilleur affolé fit soudain irruption en bousculant le gardien-chef qui fut projeté contre le mur. Quoi, qu'est-ce qu'il y a encore? S'écria une grosse voix enrouée. Logarec et Martissol se tenaient prudemment l'un derrière l'autre. L'homme, bouche bée, regardait son chef sans parvenir à articuler un mot. « M'expliquez-vous à la fin, » ordonna le supérieur. « Vous avez vu quelqu'un ?»« Chef !» bredouilla le bailleur en désignant Logarec et Martissol. « Je les ai aperçus, ils couraient, et puis derrière eux, un moment après, quelque chose est apparu. Oh, on aurait dit un homme, mais je suis pas bien sûr. Ça faisait pas de bruit, on aurait juré. Où étiez-vous ? Là, dans le salle des bijoux anciens. Et ce que vous avez vu venait d'où ? De là-bas, répondit le veilleur en montrant l'enfilade des salles. « Mais il fallait appeler, couper la retraite à cet homme. Si homme il y a, où est-il allé ?» Le fonctionnaire eut un geste vague. « Je crois qu'il est descendu, » dit-il. Alors les veilleurs d'en bas l'auront vu sortir. Qu'on aille les chercher, ou plutôt non, je vais les faire monter. Et il appela. « Heurtebise, papillon !» Deux gardiens somnolents montèrent pesamment l'escalier. Ils n'avaient rien vu, mais considéraient ahuri un peu narquois ce groupe de quatre hommes dont trois étaient livides. « Alors, par ici !» s'écria le chef en se frappant le front. Il fit quelques pas, et s'arrêtant devant la porte d'Apollon, il dit à Martissol « Allez me chercher, Caraton !» Celui-ci arriva bientôt. C'était le préposé à la garde des diamants de la couronne. Ben, « Vous savez bien quelque chose ?» lui demanda le chef. Ben, « Je sais qu'il y a alerte, mais j'ignore de quoi il s'agit. »« Alors, vous n'avez rien vu ?»« Ben, rien, chef. »« Mais enfin, » s'écria le gradé, « cet homme n'a pourtant pas pu s'envoler. »«
C'est que c'était pas un homme, » murmura Logarec, « du moins un homme vivant. »
« Qu'est-ce que vous me chantez là, espèce de serin ?»«
Demandez à Martissol, chef. »« Oui, c'est sorti d'un sarcophage, » affirma le méridional.
« Ah, pour le coup, c'est trop fort. »«
Oui, le sarcophage s'est ouvert. Ça, je l'ai vu, je ne rêvais pas. »
Le chef haussa les épaules, puis il dit brusquement. « C'est bien, allons voir. Suivez-moi tous et attention, hein. » Que l'on renferme les portes, après quoi nous serons passés. Logarec, Martissol, leurs camarades de la salle des bijoux anciens, les deux gardiens du grand escalier et celui de la galerie d'Apollon, emboîtèrent le pas à leur supérieur. On arriva dans la salle où avait eu lieu la scène fantastique cause de tout ce branle-bas. Les deux gardiens, témoins de l'étrange aventure, poussèrent une exclamation en désignant le sarcophage placé à gauche de la porte vitrée. Le couvercle s'était refermé et la figure noire du Ramsès fixait sur la petite troupe son immuable sourire énigmatique.
« Mais il était ouvert, pourtant, » haleta Logarec.
« Quoi, fit le chef, ce sarcophage ?»«
Oui, chef, il s'est ouvert devant nous. »
Le supérieur, incrédule, fit pivoter le couvercle. « Vous voyez, il n'y a rien, » dit-il.
« C'est que la momie s'en est allée, alors. »«
La momie ? Mais quelle momie ? Vous savez bien que ce sarcophage-là est toujours vide.
»« Pourtant, la forme que nous avons vue. »«
Moi aussi, j'ai vu quelque chose, » intervint le gardien de la salle des bijoux anciens. « Eh, parbleu, oui, fit le chef, vous avez vu passer ces deux poltrons-là. »«
Oui, mais derrière eux... »«
Derrière eux, vous avez aperçu leur ombre au clair de lune, c'est stupide. Toute cette histoire ne tient pas debout. Que chacun retourne à son poste et que cela soit fini. » Les gardiens se dispersèrent, on rouvrit les portes et les veilleurs allèrent reprendre leur faction. Le gardien-chef venait de s'engager dans l'escalier
qui conduit à son logement situé sous les combles, lorsqu'un cri le cloua au sol. Au même instant, il vit une masse débouler à ses pieds, trébucher et se retenir au mur. Un bicorne roula sur les marches de l'escalier. Le chef reconnut le gardien des diamants de la couronne. « Parlez ! Mais qu'y a-t-il ? Mais parlez donc, animal !» Le pauvre garçon ne parvenait qu'à proférer un son rauque qui sortait de sa gorge continuellement. « Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! » Et son doigt tendu montrait la galerie d'Apollon. Interloqué, le gardien-chef vint à ce malheureux qui tremblait et le secoua rudement par les épaules. « Mais parlez donc » s'écria-t-il. « Qu'est-ce qu'il y a? Qu'avez-vous vu ?» L'autre regardait le supérieur de ses grands yeux hagards. Ses lèvres remuaient, mais il n'en sentait que des sons inintelligibles. À la fin, cependant, des mots se précisèrent. « Il y a, balbutia-t-il. « Quoi donc, mon Dieu ? Il y a, chef, qu'on a volé. »« On a volé, mais qu'est-ce qu'on a volé ?»« Le régent, chef, oui, le régent. » Et le gardien s'effondra sous le poids de cet aveu. La face déjà congestionnée du chef devint pourpre. La surprise, l'émotion, la colère le suffoquaient. Il se mit à crier à tue-tête. « Vous êtes fou, volez, volez, volez le régent. Mais vous êtes fou, fou, vous dis-je. » Mais tout en se rassurant de la sorte, il n'en prenait pas moins le subalterne par le bras, le poussait devant lui, et son falot dans la main droite se ruait vers la galerie d'Apollon. Alors, le malheureux gardien montra la vitrine où sont exposés les diamants de la couronne. « Là, là !» fit-il. Il n'en dit pas davantage, mais le spectacle qui se présentait en ce moment aux yeux du supérieur en disait plus long que tous les commentaires. Il rugit, serra les poings. « Oh, vain Dieu, le vain Dieu, les misérables !» Un rectangle juste assez grand pour livrer passage à une main était nettement découpé dans la glace de la vitrine. Le morceau enlevé était posé tout à côté. Un petit amas de mastic, où se voyaient encore des empreintes de doigts, occupait le milieu de ce carré de verre. Et à la hauteur de l'ouverture béante, le fin support d'argent sur lequel le célèbre joyau se présentait naguère, libre de tout contact en pleine lumière, ce support se courbait à sa place habituelle comme un point d'interrogation tendant ironiquement sa griffe vide. C'était fou, en effet, invraisemblable, inadmissible. Et pourtant, le fait était là. On avait volé le régent en plein musée du Louvre à la barbe de son gardien. Chapitre 3. Quelques traits de lumière sur le mystère. Oui, on avait volé le régent. Et j'en puis ici fournir la certitude avec quelques preuves de l'appui, puisque le voleur, c'était moi. Bien qu'assez réservé de ma nature, j'estime que le moment est peut-être venu de me présenter. Je me nomme George Edgar Pipe, sujet anglais, cambrioleur professionnel et jouissant en la matière de quelque autorité. Certes, mon nom n'a point d'éclat. Il n'a figuré sur aucune manchette de journal, bien que mes exploits aient, durant 5 années, défrayé les chroniques des deux mondes. La raison de cette obscurité, elle est bien simple. Jamais je ne me suis laissé prendre. Le cas me paraît assez exceptionnel pour que j'en fasse ici mention. Il explique au surplus comment, si mes actions sont devenues célèbres, mon nom est demeuré parfaitement ignoré. Je ne taxerai pas à ce propos le destin d'injustice, à l'exemple de certains auteurs de mémoire. Cette obscurité me plaît, Je suis modeste. Toutefois, l'heure est venue de sortir de ma tour d'ivoire, d'abord parce que, retiré des affaires, j'ai désormais quelques loisirs, et ensuite parce que la prescription m'est acquise et que ma liberté n'aura pas à souffrir des aveux que je pourrais faire. Donc, on s'est beaucoup occupé de moi sans me nommer jamais. Néanmoins, mes exploits offrent tous un trait caractéristique auquel il est aisé de les reconnaître. Ce trait est justement leur anonymat. Tous les grands vols, cambriolages et autres coups d'audace dont l'auteur est demeuré inconnu, tout cela sort de moi. Je peux bien le dire aujourd'hui, puisque la justice ne me fera plus l'honneur de s'occuper de mon humble personne. Je me ferai cependant un devoir d'exposer par le détail mes façons de procéder. Cette relation sera, je l'espère, de grand enseignement, car ne s'improvise pas cambrioleur qui en a fantaisie. C'est mieux qu'un métier, c'est un sacerdoce. Ses fidèles sont de grands méconnus. Le cambrioleur n'est-il point, comme l'a si bien dit Stevenson, le seul aventurier qui nous reste ici-bas? Songez donc à la lutte incessante qu'il livre, un contre tous, seul contre la société civilisée tout entière. Et le courage donc, avouez qu'il en faut une jolie dose pour s'introduire la nuit dans une maison, crocheter une serrure, forcer une porte sans savoir ce que l'on trouvera derrière. Ah, on paye souvent bien cher, vous pouvez me croire, les quelques bénéfices que l'on retire de telles expéditions. La suite de ce récit me donnera raison ou tort, mais j'ai conscience d'accomplir une œuvre de justice en réhabilitant un art que trop de maladroits ont compromis et que l'aveuglement des masses a taxé stupidement d'infamie. Mais, m'objectera-t-on, pourquoi vous, un saint sujet anglais, êtes-vous venu vous faire la main en France? L'explication, elle est plus simple. J'avais depuis longtemps formé le projet d'enlever, non point de ces objets de pacotille que tous les bourgeois ont chez eux, mais une pièce rare, unique, qui eût un nom, une histoire, et représenta une fortune. Les pierreries célèbres, celles qu'ont portées les rois, me semblaient répondre à mon dessein. Pour quelle raison alors suis-je venu en France? Ben, sans doute nous avons des diamants, de célèbres diamants, comme ceux de la couronne d'Angleterre, par exemple, mais je le déclarerai tout net, ils sont mieux gardés que chez vous. La France apparaît aux étrangers comme un vrai pays de cocagne, et cela est particulièrement vrai pour les gentlemen qui s'adonnent au cambriolage. Ici, point de ces promiscuités fâcheuses avec des surveillants d'éducation précaire. On n'est jamais obligé de se colleter avec des malappris. Tout vous est largement ouvert. On est chez soi. Il n'y a qu'à se baisser pour prendre, si le cœur vous en dit. La France est avant tout le pays du savoir-vivre. Autre motif, si l'on est pris, car il faut tout prévoir, si l'on est pris, cela devient sérieux en Angleterre et désobligeant au possible. 10 ans de hard labor pour la moindre des peccadilles, autant dire la mort civile et naturelle par surcroît. Inversement, que risque-t-on chez vous? 5 ans, 10 ans de villégiature qu'on n'aurait jamais songé à s'offrir. Un voyage au long cours dans des régions clémentes, au climat sain et tempéré, sous des cieux toujours bleus, au milieu de décors féeriques. On s'évade facilement de ces régions-là, et l'on peut en retour se refaire une situation. On a acquis de l'expérience et la considération qui entourent généralement les voyageurs. Voilà pourquoi j'ai choisi la France. Résolu à commettre un vol qui en valût la peine, je décidai de m'emparer du régent. Pour mener mon projet à bien, Je choisis le jour de Noël, qui est d'heureux augure en Angleterre, et dans l'après-midi du 24 décembre, je me mêlais aux nombreux curieux qui s'écrasaient dans les galeries du Louvre. Après un examen attentif des locaux, mon plan fut vite arrêté. Je devais attendre la nuit sans trahir ma présence dans les salles du musée même. Cela m'évitait d'avoir recours au procédé de l'escalade et s'accordait mieux avec mon caractère qui ne désire qu'une chose, passer inaperçu. Après avoir inspecté les diverses salles du Louvre, j'optai pour celle des antiquités égyptiennes où sont exposées les momies, salle assez peu fréquentée du public, et profitant d'un moment où il n'y avait personne, je me glissai rapidement dans une haute boîte, sorte de gaine oblongue, qui, je m'en étais assuré quelques minutes auparavant, était vide et pouvait contenir un locataire de ma modeste corpulence. Je ne sais s'il vous est arrivé d'habiter quelque temps dans l'intérieur d'un sarcophage. Ceux qui l'auront tenté me comprendront. À vrai dire, on y est très mal, on y respire à grand-peine, et cela sent affreusement le moisi. Mais la situation s'aggrave lorsqu'on dut rester des heures, comme c'était mon cas. La nuit vint. J'entendis fermer les portes. Les minutes s'écoulaient lentes, lentes, et j'avais l'impression, à la longue, de revivre les millénaires qui nous séparent de la première dynastie. J'étais fort indécis, en somme. Comment sortirais-je de là? Je n'avais encore rien trouvé lorsque, vers minuit, j'entendis les gardiens pénétrer dans la salle. Ils s'arrêtèrent, se mirent à causer, mais n'ayant rien de mieux à faire, j'écoutais. On sait quels étaient leurs propos. La contemplation prolongée de la reine Tia, les considérations funèbres qui s'ensuivirent, la nuit, la solitude et le naturel superstitieux de l'un d'eux les mettaient dans un état d'infériorité certaine. Ce me fut une inspiration. Plutôt que de compter sur le hasard qui pourrait bien ne point se manifester, je résolus de mettre à profit l'énervement de mes deux gêneurs et de frapper un grand coup. C'est alors que je commençai à remuer doucement dans mon sarcophage. L'effet fut prompt et rassurant. Les gardiens avaient peur. Ils n'étaient plus à craindre. Je graduais mes effets de terreur en souriant de leur épouvante. Alors, bien sûr de moi, je poussai l'audace jusqu'à m'évader de mon coffre, je ne dirais pas à leur nez, car ils fuyaient déjà à toutes jambes. Mais j'étais libre de mes mouvements et seul dans cette salle, tout à l'heure, trop bien surveillée. N'avais-je pas raison de proclamer plus haut ma foi dans l'influence que peut avoir le merveilleux? Cependant, je n'étais pas au bout de mes peines. Il me fallait gagner la galerie d'Apollon, où je savais qu'était exposé le régent, mais que je savais aussi spécialement gardé par un veilleur de nuit. Je me lançai provisoirement sur les traces de mes deux nigauds, de ce pas subreptice et silencieux qui convient au fantôme d'un pharaon. Je vis bien, en traversant une salle, que mon apparition faisait quelque impression sur un gardien probablement dérangé dans son sommeil. L'alarme allait être donnée. Je ne pouvais songer d'ailleurs à me risquer à l'aveuglette dans la galerie d'Apollon, et comme je venais d'arriver en haut de l'escalier de la Victoire, je m'aperçus que l'on avait là, fort à propos, reconstitué certains portiques ornés de deux cariatides provenant, je crois, des ruines de Delphes. Ce détail a peu d'importance. Ce qui en avait plus pour moi, c'est qu'on avait au fond de ce portique tendu un rideau à la grecque dans le dos des deux cariatides. Je me cachai derrière ce rideau et attendis. J'assistais dans cet incognito qui me sied au conciliabule d'un homme à grosse voix, et de mes deux gardiens de la salle des antiquités égyptiennes. Puis je compris que le veilleur des diamants était appelé et convié à se joindre à la ronde. Alors je sortis doucement de ma cachette et revins à pas de loup vers la rotonde. Tout le monde était occupé à discuter dans la salle des momies. Moi, le plus doucement possible, je gagnai la galerie d'Apollon. Elle était vide, comme je m'en doutais. Vite, ma petite lampe de poche, mon diamant de vitrier, les feux du régent guident ma main à travers la vitrine, zzz, 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 quatre coups de diamant en rectangle. Je colle un paquet de mastic sur la partie délimitée, je tire à moi, la vitrine est ouverte. Alors je recueille le régent, le mets dans mon gousset, puis j'ouvre sans bruit une fenêtre à laquelle j'attache la cordelette de soie qui ne me quitte jamais, et je me lance dans le vide. Il était temps, des pas se rapprochaient. Que l'on se figure, si l'on peut, la joie d'un heureux cambrioleur, arrivant sans accroc au pied du mur du Louvre, avec le régent dans sa poche.